CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Comment dominer le péché dans ma vie ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », Frank répondra à la question « Pourquoi avons-nous besoin de confesser nos péchés s'ils ont déjà été pardonnés ?» Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle nous présentera l'école de danse de notre invitée Virginie Elfa. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Annabelle, j'ai vu du coin de l'œil un magnifique mouvement de danse.
Tout à fait, je me sens
je
en mouvement aujourd'hui.
J'ai eu le plaisir de le
je
voir
sens, en mouvement. J'attends le mouvement.
Annabelle a entendu l'émission d'hier.
Mais quand elle parle, normalement, c'est comme ça quand même.
Mais là, je le fais plus.
Ah, ok.
C'est plus artistique.
Ah, j'ai vu. Hein.
La dimension artistique est là. Virginie, tu nous impactes. Merci d'être encore avec nous. Tu transformes ces cadeaux. Tu vois, c'est tout de suite plus artistique.
C'est vrai que c'est plus cool, ouais.
Quand même, hein,
bon, c'est une question d'accent, parce que même dans le mouvement, il y a un accent.
Ah, effectivement, bah, l'accent est plus prononcé par ici. Hein. Désolée, Annabelle. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, Annabelle a fait de la danse dans sa jeunesse. Pas
tu
mal d'années.
Mal aujourd'hui.
Je ne vous dirai pas combien. Ah, j'ai pas dit combien d'années, donc les gens peuvent croire que c'est un an et pas 10 ans.
Ah oui.
Donc,
allez, on passe aujourd'hui à la pensée du jour.
Aujourd'hui, nous ne parlons pas de danse, en tout cas pas tout de suite. On va parler de ton école, Virginie, à la fin. Mais avant ça, on va parler d'un sujet qui est, oui, en tout cas, peut-être plus difficile à avaler, mais qui est nécessaire aussi en cette fin d'année. On peut prendre de bonnes résolutions fin d'année. Il y en a qui veulent arrêter de boire du café, il y en a qui veulent faire plus de sport, il y en a qui décident différentes choses. Mais vous pouvez aussi décider d'arrêter de pêcher. C'est une excellente résolution. Vous allez voir, Jonathan va tout vous dire dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « Va et ne pêche plus ».
Tout à fait. C'est l'histoire en fait d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et des scribes, des pharisiens, des hommes religieux amènent cette femme à Jésus dans le temple. Et en fait, on pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Et Jésus ne répond pas à la question. Il préfère écrire ou faire quelque chose avec son doigt sur le sable. Il dessine, il écrit, il y a un mouvement. Et donc, devant l'insistance des hommes religieux, eh bien, Jésus va dire cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché, donc lui jette la première pierre. Et le texte nous dit, on est dans Jean chapitre 8, verset 7 par exemple, dans la NBS, Nouvelle Bible Second. Suite à cela, donc ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et Jésus donc est seul avec la femme, et Jésus lui dit... Où sont passés ceux qui te condamnaient ? Plus personne n'est là. Et elle répond, ben, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Alors, je commence par l'introduction, c'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation. La première chose qui se passe ici dans cette histoire, c'est que Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Jésus aurait pu condamner cette femme, mais l'apôtre Paul nous le souligne, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que l'amour de Dieu a été manifesté à la croix du calvaire, et c'est là une déclaration formelle de la justice de Dieu, je ne te condamne pas, même si tu es coupable, je paye pour toi. Et cette manifestation d'amour, l'apôtre Paul le souligne dans Romains 5:8, Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Jésus dit premièrement à cette femme, je ne te condamne pas, et lui dit ensuite, va. Et ça semble peut-être tout bête, ce petit mot va ici, mais ça veut dire beaucoup. Ce va, en fait, techniquement, nous dit que cette femme peut repartir libre, mieux encore, vivante. Parce que on est dans le temple. On est dans le temple, le haut lieu de la loi, le haut lieu des prescriptions mosaïques. Et la loi disait clairement que si une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, elle devait mourir. Techniquement, cette femme aurait dû mourir. Mais parce que on a amené cette femme à Jésus, vous voyez, on l'a amenée pour d'autres raisons, mais finalement, ça lui a sauvé la vie. Parce qu'en amenant cette femme à Jésus, cette femme a la vie sauve, et Jésus peut lui dire, tu peux repartir avec la vie maintenant, ce n'est plus la condamnation de la mort qui est sur toi, mais va, va en paix, va en liberté, la vie est sur toi au lieu du verdict fatal. Mais Jésus ne lui dit pas seulement « va », il lui dit aussi « ne pêche plus » et il lui dit « désormais » ou alors selon d'autres traductions « maintenant, dorénavant, ne pêche plus ». Donc ce n'est pas seulement « va » et puis « fais comme avant ». Non, non, c'est « va » et « ne pêche plus ». Va et ne fais plus comme avant. Va et arrête d'être adultère. C'est pas va retrouver le gars avec qui tu étais. Non, non, c'est va et maintenant que ta vie change, que ta vie soit transformée. Ne pêche plus. Il y a une relation de cause à effet. Maintenant que tu as la vie, alors que tu aurais dû mourir, maintenant que la vie de Jésus est avec toi, ne pêche plus. C'est un ordre. C'est pas juste une recommandation, c'est pas juste je te suggère, je te conseille, c'est ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Vous savez, il y a une autre histoire juste avant celle-là, donc trois chapitres plus tôt, chapitre 5 de l'Évangile de Jean, où il y a un homme qui est paralytique à la piscine de Bethesda, et cet homme va être guéri, et Jésus disparaît, et il le retrouve un peu plus tard, il ne savait pas qui c'était, et il est dit qu'il le retrouve dans le temple, c'est dans le temple encore que ça se passe, et Jésus lui dit, tu as retrouvé la santé, tu as été guéri, ne pêche plus. Mais Jésus continue, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je ne sais pas si cette phrase vous a déjà un petit peu questionné, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à cet homme qui était malade depuis si longtemps, assis au bord d'une piscine désespérée, en disant de toute façon, il y a toujours quelqu'un plus rapide que moi pour être guéri. Et ce qui pourrait arriver de pire, eh bien, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et Jésus lui dit, comme à cette femme plus tard, va, ne pêche plus. Il dit, va, ne pêche plus, parce que c'est capital pour toi. Ce n'est pas ici une condamnation en disant, attention, si tu continues à pêcher, tu vas mourir d'une mort éternelle. Non, c'est juste, tu ne pêches plus parce que la vie est en toi maintenant, mais fais attention, il y a des conséquences à rester dans l'état dans lequel tu es. Jésus dit à cette femme, ne pêche plus parce que maintenant tu as été libérée, affranchie, la vie est en toi. Alors pour conclure, je vais conclure avec quelque chose de tout simple et ça va amorcer le thème de notre journée. Jésus dit, celui qui demeure en lui, demeurez en Jésus, que ses paroles demeurent en vous, et alors vous pourrez aisément mettre cette ordonnance en pratique, ne pêche plus. Alors volontairement, je vais citer hors contexte un verset, mais c'est volontaire et je l'assume, et pour lui donner un autre sens par rapport à cette phrase « ne pêche plus », Jésus dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » La clé est donc simple, demeurez en Jésus et que ses paroles demeurent en vous.
Amen. Merci Jonathan. L'histoire de cette femme adultère, je trouve, elle est très belle et elle explique vraiment bien ce qu'on a vécu quand on a donné notre vie au Seigneur, quand on est né de nouveau. Cette femme a rencontré Jésus. Jésus lui a sauvé la vie, très clairement. Il lui épargne sa vie. Elle devait mourir, comme tu l'as dit. Elle vit. Et finalement, elle a la possibilité de s'en aller, mais avec une condition. Et en fait, quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie au Seigneur, c'est parce que on a pris conscience de ce que Jésus avait accompli à la croix. Et il y a une notion qui est importante, c'est cette notion de ne plus pécher. On ne peut pas prendre un salut, prendre un cadeau qui nous donne, qui pardonne, qui efface nos péchés complètement, qui les fait disparaître, et ensuite dire « Ok, je m'en vais, je continue ma vie et je reviens exactement dans ce que je faisais auparavant. » Il y a quelque chose qui n'est pas logique à ce niveau-là. Et c'est aujourd'hui, le but, c'est de prendre conscience que c'est totalement incohérent et surtout que c'est réduire l'œuvre de la croix à quelque chose d'inutile finalement. À quoi ça sert que nos péchés soient effacés pour finalement retourner dans le péché et continuer à vivre dans le péché ? Ça n'a absolument aucun sens. Donc il y a une prise de décision à prendre pour commencer, de se dire que quand on a réellement fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de notre vie, il y a une condition qui est présente pour nous tous, c'est de ne plus pécher. Parce qu'on se détourne de notre ancienne vie, on prend la décision de changer radicalement de vie. Notre vie n'a plus d'importance, notre vie ne compte plus, c'est la vie de Jésus-Christ qui vient en nous. Et à partir de ce moment-là, on lui a abandonné toute notre vie. Donc nos désirs aussi, nos désirs charnels et notre volonté, tout ce qu'on avait, tous ces désirs qu'on pouvait avoir qui étaient contraires à la parole de Dieu, on y renonce à ce moment-là. Et le problème, c'est que très souvent, les gens partent de très bonnes intentions à ce moment-là. Il y a une vraie décision qui est prise. Et puis, au fur et à mesure, la tentation vient. On a déjà fait des émissions par rapport à ça. Et on retourne dans les anciennes choses, ou même on fait des choses parfois même pires encore. Et c'est là que vient le problème. Et la Bible dit dans Genèse 4 au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc on voit que le péché va venir essayer de reprendre sa place en nous parce qu'on vit dans ce monde, le diable va essayer de nous faire revenir en arrière, de nous garder dans son royaume des ténèbres, de nous traîner, de nous ramener plutôt dans son royaume des ténèbres. Donc il y a cette réalité-là, le péché va vouloir venir. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? Quelle décision on prend? Est-ce qu'on décide de le dominer ou est-ce qu'on décide de se soumettre à ses désirs, finalement, qui nous éloignent de la volonté de Dieu?
J'ai la bonne réponse, il faut dominer. Hein.
C'est mignon, tu peux pas faire. Je t'ai pas donné la parole.
Ah, mais je pensais que tu avais dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dominer sur le péché.
Oui.
Mais comment s'y prendre? Et ça, c'est une bonne question, parce que on a tous fait face à ça. On avait une vie avant, on vivait certaines choses. Et là, on arrive, on se donne à Jésus. Et là, il y a comme le vieil homme, si on veut, qui veut ressortir. Il y a les vieilles affaires du passé qui veulent des fois remonter, des vieilles façons de faire, des façons de penser, de parler, de toutes sortes de choses qui peuvent être là. Moi, je l'ai souvent dit, même à Bonjour chez vous, Evelyne, ma vie a complètement changé lorsque, évidemment, je me suis donné à Jésus pleinement. Mais que réellement, j'ai décidé de me rapprocher de lui et ça revient, moi je le ramène à ça, c'est vraiment cette espèce de bataille entre l'esprit et la chair qui est là. Ta chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et il va y avoir des choses charnelles que tu voudrais faire, des choses que tu aurais peut-être fait avant. Moi, c'est comme ça que j'ai expérimenté. Oui, Christ nous a pleinement affranchis au travers de l'œuvre de la croix, entièrement. Mais quand je me suis rapproché et que j'ai commencé à l'aimer davantage, j'ai commencé à connaître Dieu davantage, j'ai commencé à me plonger dans la parole davantage, toutes ces choses-là ont fait en moi qu'il y a eu un dégoût qui est venu pour le péché. Vraiment, ça s'est installé. C'est comme ça que je l'ai vécu personnellement. Il y a eu des choses qui m'a libéré de certaines choses, absolument, délivré. Mais il y a vraiment eu ce rapprochement que j'ai eu avec Dieu qui a fait que je me suis affectionné à lui davantage. Et puis c'est ça, les autres choses, j'ai pris la décision de les délaisser. Et puis par la suite, les choses vont, tu progresses, tu avances dans ta vie chrétienne, évidemment. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis on est appelé à dominer sur ces sentiments-là, ça c'est sûr et certain. Hein.
Amen.
En fait, le grand problème, c'est quand on essaye de dominer par soi-même. Parce qu'on n'en a pas la force, et on n'a pas la compétence, et puis du coup, on va s'user. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont découragés en disant « mais j'essaye, je domine et j'y arrive pas ». C'est parce que c'est par la force que Dieu te donne que tu pourras dominer. C'est pas par tes propres forces, c'est pas de toi-même, mais c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça que il faut à un moment donné comme baisser les bras en disant « je n'y arriverai pas ». C'est bien de le dire, « je n'y arriverai pas par moi-même ». Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Ça me rappelle quelque chose, ça. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et si c'est Dieu qui met en vous cette force, si vous êtes dans cette communion avec Christ, si ses paroles demeurent en vous et que vous demeurez en lui, eh bien là, ça va devenir possible. Cette capacité, elle vient de Dieu. Maintenant, ce n'est pas le tout d'être capable, il faut le vouloir.
Oui.
Donc c'est déjà un, je décide, je veux, je ne veux plus de ces choses, je renonce à ça. Je capitule, je réalise que je ne suis pas capable par moi-même, je demande à Dieu son secours, et avec lui, je fais des exploits.
Amen. Je pense qu'il y a aussi une notion de... au bout d'un moment, quand on réalise qu'on n'est pas capable de prendre le dessus, c'est plus fort que nous, et même, on a décidé de se confier en Dieu, mais on n'y arrive pas. Il y a une notion aussi, des fois, de s'éloigner du péché, de plus se mettre dans des conditions, dans des circonstances où on va être fragilisé et on va être tenté. Au bout d'un moment, si, on prend souvent l'exemple du gâteau de chocolat, mais... Tu veux plus manger de gâteau au chocolat, mais tous les jours, tu t'assois en face d'un gâteau au chocolat.
Ça marche avec la noisette
ou le chocolat particulièrement. finalement, n'est-ce pas Virginie, toi qui aimes beaucoup les choses sucrées? Je dévoile tout. Tu as ton gâteau. T'as raison. Tu as ton gâteau au chocolat en face de toi tous les jours et tu le laisses et t'es tenté.
C'est clair.
Au bout d'un moment, faut prendre des décisions. Moi, au début de ma vie chrétienne, il y a des relations que j'ai dû vraiment couper, que j'ai repris différemment après, des années après, mais que j'ai dû vraiment couper parce que tu ne peux plus vivre la même vie qu'avant. Donc, si tu te mets dans les mêmes conditions qu'avant, tu vas être dans une lutte incroyable et puis c'est une torture finalement.
C'est sûr que si cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère dise « bon, je vais retourner le voir pour lui dire au revoir quand même, on s'est quitté, on n'a même pas eu le temps de se faire la bise », bon, c'est sûr que... Que là, elle est mal partie.
C'est le vécu du pasteur, les entretiens.
Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Ouais. Hein.
Après, je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu disais aussi, Jonathan. Effectivement, certains qui nous regardent peuvent se dire, mais tout ce que vous dites là, c'est bien beau, mais sincèrement, face à telle ou telle addiction, j'ai tellement honte. Je suis chrétien depuis tant de temps et j'ai profondément honte. On se rend compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la masturbation ou qui fument en cachette et pourtant ils servent à l'église et pourtant ils sont chrétiens depuis longtemps, etc., etc. Donc face à ça, moi je voudrais vraiment encourager les gens à ne pas se cacher et à ne pas avoir honte, au contraire à réaliser que face à certains péchés, il faut aussi savoir identifier, analyser la racine et la source du péché, parce qu'on n'attaque pas le péché, tous les péchés de la même façon. C'est important de recevoir aussi ce discernement-là et cet enseignement, de savoir voilà, quelle est la racine en fait. Il y a des choses qui sont attachées à l'âme, des choses qui sont vraiment profondément des liens spirituels, générationnels, etc. Et là, c'est vraiment l'Église qui doit pouvoir apporter cette réponse. Et pour ça, peu importe quel est le péché qui vous lie, mais vraiment que chacun puisse se sentir libre de pouvoir aller demander de l'aide et d'exposer à la lumière ce péché afin de pouvoir recevoir une réponse ciblée.
Oui.
Parce qu'on ne traite pas tous les péchés de la même façon.
Tout à fait, c'est vrai.
Et aussi réaliser que le péché ne fait qu'une suggestion. Et quand on réalise qu'en fait, on a cette liberté de dire non au péché, qu'on n'est pas obligé de le subir, on n'est pas obligé de l'accepter, qu'on a cette non seulement la liberté, mais aussi la victoire sur le péché. D'un seul coup, on change notre statut. C'est pas « Oh, le péché arrive encore, il va m'environner, il va venir m'assujettir ». C'est d'être conscient, non, face au péché, qui a la victoire? C'est moi qui ai la victoire. Oui, le péché est tapis à ma porte. Les désirs du péché se portent vers moi, mais est-ce que mes désirs se portent vers le péché? Est-ce que j'accepte l'invitation du péché? Et pour certains, c'est que, ah oui, mais c'est encore à moi de me battre, mais c'est vraiment un privilège qu'on a de lui claquer la porte au nez et de dire, non, c'est fini, stop, je ne veux plus de ça dans ma vie. Et quelquefois, ça semble vraiment simpliste de dire que de refuser le péché et de tourner le dos au péché, de fuir le péché, c'est une réponse. Mais dans beaucoup de situations, sérieusement, ça suffit en fait. Ça suffit, ça coupe toutes les racines, ça coupe tous les liens. Et comme tu disais, le problème, c'est qu'on est là, on contemple, on ouvre la porte, on va faire un petit bisou, enfin un petit coucou, on habille le péché, on le couvre, on le recouvre, on le change de place, mais le péché est toujours là et on est toujours en train de manipuler le péché. Et à un moment donné, ouais, faut fermer la porte et se dire non, moi je suis le temple du Saint-Esprit, le péché n'a plus de place. La Bible dit qu'il a été vaincu, je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu et que Jésus a pris tous mes péchés, il est mort pour mes péchés, j'ai plus à subir le péché dans ma vie aujourd'hui. Et franchement, et je le redis, ça a l'air simple, mais c'est vrai et c'est puissant. Et quelquefois, on cherche des trucs compliqués, mais voilà, le péché, c'est mal.
c'est ça. Fallait le dire depuis le début.
Vraiment, c'est vrai. Puis Hébreux 12, verset 1 nous dit: nous tous, donc, on est environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché, tous les péchés qui peuvent nous envelopper si facilement. Et puis, c'est vrai, c'est comme Annabelle dit, mais le péché, c'est mal. Puis ça, il faut se le rentrer dans la tête. Et en fait, beaucoup de personnes, je crois, ils ne réalisent pas, en fait, même à quel point, ben, c'est pas bien. Juste vivre dans le péché comme ça, il faut venir qu'à réaliser à quel point il y a un dégoût de la part de Dieu pour le péché. Et c'est pour ça, ben, quand tu réalises à quel point c'est même pour Dieu, c'est pour ça qu'il est venu nous racheter. C'est la première raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix, c'est pour nous racheter, nous pardonner de nos péchés. Tu dis à quel point c'est important, je dois pas jouer avec le péché. On a fait tellement d'émissions sur le péché, je joue pas avec le péché, ça va t'apporter toutes sortes de problèmes. Oui, ça va ouvrir la porte au diable dans ta vie, ça va faire toutes sortes de choses. Et des gens vont se dire, mais pourtant, mais c'est agréable un peu, si t'es à cette situation-là, ce niveau-là, ben c'est agréable encore. Pff, tu vas avoir de la misère à dire non.
C'est sûr.
Il faut comprendre que c'est ça. Il ne faut pas tolérer le péché, en fait.
Et pour éviter la confusion, là, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui disent, mais je ne comprends pas, vous êtes tous parfaits. Non, on n'est pas parfaits et ça arrive de faire des erreurs et ça arrive de pécher. Mais si vous relisez bien la première épître de Jean, il y a une différence entre péché d'une manière involontaire, subite. Et là, l'apôtre dit, si quelqu'un a péché, ben, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais dans le même cas, il dit, celui qui demeure dans le péché n'a pas connu Dieu. Donc le problème, c'est de demeurer, c'est de s'installer, c'est d'accepter quelque chose d'inacceptable dans votre vie. Et c'est pour ça que ça prend une décision ferme en disant, non, je ne peux plus vivre avec cette chose qui est là d'une manière récurrente, et de dire, ben, il faut que je m'améliore, il faut que je change, il faut que j'ai une victoire là-dessus. Et Christ est mort pour cela. Et d'une certaine manière, le sang de Jésus est suffisant pour tout. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Yes. Pas simplement de ceux de la catégorie A, B et C, mais de tout péché.
Amen, amen. Et un dernier conseil que je pourrais aussi donner, c'est l'importance de... on a enlevé le péché, on a pris la décision, c'est défait du péché, mais il faut combler le vide à l'intérieur de nous. Ce vide doit être rempli par Christ, par plus de Christ, plus de sa parole, plus de sa présence, plus du Saint-Esprit. On comble, on ne laisse pas vide, en fait, ces emplacements qu'on a laissés là où était le péché, là où on avait l'habitude de pécher dans certains domaines. On va faire autre chose, mais on comble ce vide plutôt que d'être simplement là à essayer de résister tant bien que mal. Et Frank, tu vas répondre à une question maintenant de Jean-Claude du Congo qui a demandé « Pourquoi avons-nous besoin de confesser nos péchés s'ils ont déjà été pardonnés ?» Ben c'est vrai, on parle souvent de confession dans les émissions de Bonjour chez vous. On a parlé quand même plusieurs fois de la puissance de la confession. Ouais. Mais c'est vrai, nos péchés sont pardonnés. On en a parlé au début de l'émission, il y a l'œuvre de la croix. Mais pourquoi alors est-ce que c'est nécessaire de les confesser ? De toute façon, en plus, Dieu les connaît.
Jean-Claude, Dieu connaît les péchés, c'est en effet. Mais là, si on parle de confesser nos péchés à quelqu'un, comme la Bible nous dit, ben de confesser nos péchés les uns aux autres, ou est-ce qu'il parle de demander pardon pour nos péchés, confesser
nos péchés à Dieu ? On l'appelle et on revient.
Je te propose de choisir la direction.
Choisir la deuxième direction de pourquoi est-ce qu'on a besoin de demander pardon, confesser nos péchés à Dieu, si on a déjà été pardonné. Et puis, ben, Jonathan vient tout juste de le dire, 1 Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Nos péchés passés, le jour où on a accepté Jésus, on a demandé pardon, tout a été effacé entièrement, hallelujah, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait pas que Dieu, ben c'est ça, nous mette sous le nez. Mm-hmm. Et là, ça s'est effacé. Donc là, aujourd'hui, on repart à nouveau. Et puis, comme Jonathan le dit, il a répondu en fait à la question.
Si
nous arrive de chuter en chemin, si nous arrive de, oups, j'ai fait quelque chose, il est sorti un mensonge de ta bouche, t'as fait quelque chose, bon, c'est plus difficile, des fois, on peut se dire, mais de voler quelque chose comme ça, mais bon, peu importe ce que tu aurais pu faire de péché, pendant que tu es né de nouveau, tu es chrétien, évidemment, ta conscience va te reprendre. Et ça, c'est pas agréable, et on l'a tous vécu, t'as fait quelque chose que t'aurais pas dû faire, et là, t'es comme chez toi le soir, et là, tu veux lire, mais là, t'es, ah, j'ai péché aujourd'hui. Ah, cette chose est là. Et la parole nous dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Premièrement, ça va purifier ta conscience. Le moment où ce que tu vas dire, Dieu, j'ai fait ça aujourd'hui, je te demande pardon, je sais que c'est mal, je veux plus le refaire. automatiquement cette condamnation, si on veut, condamnation, cette espèce de pensée qui est là, de j'ai péché, va te quitter. Parce que oui, Dieu va te pardonner. Et c'est la même chose comme dans la vie. Si moi, vis-à-vis de mon père, je fais quelque chose de mal, c'est juste normal, j'allais lui demander pardon. Et c'est la même chose pour nous vis-à-vis de Dieu. On veut avoir une relation qui soit droite, qui soit directe. On veut pas qu'il y ait rien qui soit là en obstacle dans notre relation entre nous et lui. Donc c'est juste normal de lui demander pardon pour ce qu'on aurait pu faire. Et puis une fois qu'on a demandé pardon, ben on poursuit notre vie. Et puis si ça arrive qu'on chute encore, on redemande pardon. Mais là, la question, pourquoi avons-nous besoin de confesser nos péchés s'ils ont tous été déjà pardonnés? Ça revient à ça. Si quelqu'un vit toute sa vie, il sert le Seigneur, et puis je donne cet exemple-là souvent, il sert le Seigneur toute sa vie, et puis juste avant de mourir, il commet un péché. Est-ce qu'il va au ciel ou en enfer? Est-ce qu'il est perdu éternellement ou est-ce qu'il est sauvé quand même? Bien évidemment, son salut ne repose pas sur sa vie parfaite. Son salut repose sur sa foi en Jésus, en ce qu'il a fait pour lui à la croix. Donc, c'est pas le but de marcher parfaitement, mais le but, c'est d'être droit vis-à-vis de Dieu et que lorsque ça arrive qu'on pêche, on demande pardon. Puis c'est tellement une grâce de pouvoir recevoir le pardon automatiquement. Hébreu nous dit qu'on a cette chance, ce privilège de s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Toutes ces choses-là sont tellement glorieuses pour nous aujourd'hui sur la Nouvelle Alliance. On a besoin d'y demander pardon parce qu'il veut qu'on le fasse. Et lorsqu'on chute, notre conscience va être purifiée. L'apôtre Paul a dit, le Dieu que je sers d'une conscience pure, il savait que devant Dieu, il était droit et il fonçait dans cette direction-là. Et on doit avoir la même attitude, nous, vis-à-vis de Dieu.
Merci, Frank. On demande pardon et on ne recommence pas.
On continue.
On ne continue pas à pécher.
Dans le péché, pas dans le péché, on continue dans la direction inverse.
Voilà. Je précise juste parce que sinon, ça avait l'air trop simple. Hein.
Ah, okay, non.
Je pêche, je me repens,
quand on se repent, c'est voilà. 180 qu'on fait dans l'autre direction.
L'apôtre Amen. Paul a posé cette question. Il dit, quoi donc? Pêcherions-nous donc oui. pour autant? Et
non.
Il dit, pantoute. Pas du tout.
Pantoute.
En bon québécois,
pantoute.
Ouais.
Merci, Frank. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes avec notre invitée Virginie Destiny Dance School. Est-ce que je l'ai bien prononcé?
Oui, très bien. Avec l'accent.
Yes.
Ouais, c'est trop cool. Dance School. Ouais. Non, t'inquiète pas, ça va bien aller.
D'accord.
Virginie. Je vais tout donner. Donc, Virginie, oui. Tu es la fondatrice de cette école Destiny Dance School. Et tu insistes beaucoup depuis le début de cette semaine dans ces émissions à rétablir aussi le fait que ce n'est pas juste de la danse, c'est vraiment d'abord du mouvement et c'est pas danser pour danser. Donc je te propose juste de nous en dire plus sur la vision de cette école.
J'ai cru que tu allais lui dire de nous faire une démonstration.
J'aimerais bien, mais je sens qu'on est limité.
Il y a une petite place.
Oui, c'est
au
ça, j'allais dire.
Oui, alors effectivement, enfin la vision première de Destiny Dance School, c'est de pouvoir former tous ceux qui sentent en eux le désir d'aller plus loin dans l'exercice, dans l'expression du mouvement, dans la louange et dans l'adoration, et d'aller plus loin avec vraiment de véritables connaissances, de véritables armes en fait. Pas simplement apprendre à danser dans la louange, mais ou apprendre un style de danse, mais plutôt déjà de s'interroger sur quelle est la place de la danse dans la parole. Que dit Dieu de la danse? Que dit Dieu du mouvement? Et surtout exercer nos cœurs à comprendre qu'il s'agit d'abord d'être un disciple de Christ. Donc c'est vrai que Destiny Dance School, souvent lorsque les danseurs en parlent, pour eux, c'est comme un temps de formation qui dépasse le simple fait d'apprendre à danser ou d'apprendre à communiquer la parole au travers du mouvement. Parce que vraiment la formation est assez complète, mais c'est aussi vraiment un temps de transformation et un temps où le Seigneur d'abord prend du temps dans les danseurs pour un temps de guérison, de restauration personnelle. Ça, vraiment, on insiste là-dessus avant tout de suite de vouloir parcourir les nations et impacter le monde au travers de notre danse, mais déjà de s'assurer que le danseur a compris qu'il est appelé à servir et que Dieu, afin qu'il soit un bon serviteur et un serviteur équilibré et qui va porter un bon fruit, veut d'abord travailler en lui. Donc c'est vrai qu'on prend d'abord du temps à expérimenter des temps de restauration vraiment en profondeur personnelle, et au fur et à mesure de la formation, on rentre plus en profondeur dans des enseignements qui concernent l'adoration, mais aussi les divers cadres dans lesquels on peut exercer le ministère de la danse, comment, pourquoi, et aussi comment Dieu peut utiliser le danseur dans l'église et puis en dehors de l'église, enfin. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant aussi à Destinée Dance School, c'est que on a ouvert non seulement des classes pour les enfants à partir donc de 3 à 4 ans, pour les kids, les adolescents, bien sûr pour les adultes avec ces formations complètes, comme je l'expliquais, mais aussi une formation qui est vraiment inédite, qui est vraiment la formation des formateurs, ou ceux qui sentent en eux l'appel de pouvoir transmettre aussi justement cette pédagogie que j'apporte à Destinée Dance School, vont pouvoir s'armer. Donc on a à peu près 2 ans de formation où là le regard n'est plus sur moi-même en tant que danseur, mais vraiment sur moi en tant que pédagogue, en tant que celui qui va transmettre ce ministère de la danse à d'autres.
Mais l'école Destinée Dance School n'est pas... Il ne faut pas être un danseur pour pouvoir commencer la formation.
Non, c'est vrai que...
Jonathan peut s'inscrire, par exemple.
Si je suis appelé. J'ai compris alors, ça certains... dans l'émission d'hier. C'est alors, si ce n'est pas mon ministère...
On s'est déjà interrogé hier, Annabelle.
Ah, d'accord.
Il a réalisé que ce n'était pas son appel.
De la même manière que certains ne sont pas appelés à chanter ou à faire de la musique.
Voilà.
Oui.
Je vise personne.
Hein. Effectivement. Après, ce qui est bien aussi, c'est que la porte est ouverte à tous. Et puisque on vit les choses dans la progression dans laquelle le Saint-Esprit veut nous conduire, les gens viennent parfois avec des motivations différentes. Mm-hmm. Certains arrivent, ils sont déjà danseurs professionnels, ils sont même diplômés en danse plutôt académique, et réalisent que danser en Dieu, pour Dieu, avec Dieu, c'est quelque chose de complètement différent. On n'est pas du tout sur la même vision, les mêmes barèmes, la même approche. Il ne s'agit pas de la danse, mais il s'agit vraiment de « Seigneur, comment veux-tu nous utiliser au travers du mouvement, mmh. au travers de la danse, dans la dimension du ministère ?» Donc même un danseur professionnel a tout à apprendre. Parce que c'est vraiment une nouvelle approche, c'est assumer aussi...
Mais tu sais que c'est pas un danseur professionnel, hein.
Justement, c'est pour ça que je prenais cet exemple, même Jonathan, pourrait arriver en disant simplement... Je sens que Dieu veut me parler d'une façon différente, et tu peux commencer la porte t'est grande ouverte à recevoir ces enseignements et à peut-être découvrir une facette nouvelle dans ton adoration sur laquelle Dieu veut t'entretenir. Je me souviens d'un dimanche matin
où il y avait beaucoup de joie dans l'église. Et puis, si vous voulez danser. Et puis moi, je disais à ma femme, ça me rappelle en Australie, puis je commence à sauter un petit peu. Puis ma femme me dit, arrête là, arrête. Puis à la fin, il y a une petite dame qui est venue voir ma femme, elle dit, il ne faut pas empêcher ton mari de danser. Il faut le laisser s'exprimer.
Ah oui, Jonathan faisait son David.
Voilà. C'était les prémices d'un appel. Oh, quelle déception.
Donc là, il y a une connexion. Hein.
Mais moi, j'ai juste une question, si tu me permets, Annabelle, c'est que tu parlais de personnes qui expérimentent des guérisons, vraiment des libérations au niveau de l'estime personnelle, etc. Oui. Des personnes même, t'en as parlé dans la semaine, d'abus, qui ont été victimes d'abus.
Oui,
donc en fait, ça peut être aussi dans cet objectif-là. Juste, je manque d'estime de moi-même, je me sens mal dans mon corps.
De se réconcilier.
Voilà, se réconcilier avec son corps, avec son physique. Ça peut être simplement ça comme motivation de départ, en fait.
Oui, absolument. Okay. C'est-à-dire que on peut aussi avoir des personnes qui arrivent à Destinée Dance School et qui vont avoir des problèmes de surpoids. Mm-hmm. Vous voyez, notre regard sur le beau, notre regard sur l'acceptable, notre regard sur ce qui est valable dans le monde artistique, n'est pas du tout le même que celui qu'on trouve dans le monde séculier. Oui. Au contraire, tout le monde est le bienvenu et tout le monde va recevoir quelque chose de Dieu. Il y a de grandes réconciliations par rapport à son corps, parce que de s'entendre dire que Dieu aime notre corps, de s'entendre dire que Dieu veut valoriser ce corps qui a souffert, ce corps que d'autres ont souillé, mmh. ont pillé, et tout à coup comprendre que Dieu non seulement le veut, mais en plus il veut l'exposer pour sa gloire. Il y a vraiment une dimension puissante en cela. cela. Et beaucoup réalisent à quel point ils étaient parfois venus chercher à comment ministrer au travers de la danse. Mmh. Et finalement, c'est d'abord une guérison intérieure, une reconstruction qui est à la fois spirituel, psychologique aussi et physique, et au fur et à mesure du temps, ceux qui sont véritablement appelés à ce ministère se fortifient et continuent à évoluer.
Ok.
Voilà.
Et elle est où, cette école?
J'allais le demander, Jonathan.
Ça tombe
mais
bien.
Mais tu vois, il a vraiment hâte.
Je veux m'inscrire.
Il se demande, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors, Virginie, où ont lieu et quand ont lieu ces cours?
Alors, on a une école physique, donc, qui est à Créteil. Et,
Créteil en France.
À côté de Paris.
À côté de Paris, tout à fait. Mais tu vois, Jonathan, il y a une solution
pour toi. Ah, il y a une solution.
Puisque l'école ne dispense pas seulement ses formations à Paris, mais bien entendu, il y a aussi l'école online. Et ça, c'est vraiment formidable, puisque Destiny Dance School forme vraiment une grande famille d'adorateurs par le mouvement, non seulement aussi au Canada, mais dans les Antilles, en Afrique francophone et dans toute l'Europe. Les personnes se lèvent vraiment et veulent non seulement vivre quelque chose pour elles-mêmes, mais aussi bénir leur église locale, le corps de Christ, en rectifiant l'approche parfois tronquée qu'on a justement de la danse dans l'église, et en mettant des équipes de danseurs et eux-mêmes en exerçant le ministère de la danse avec des enseignements solides.
Et j'ai vu aussi que tu te déplaçais, en tout cas que l'école proposait des formations intensives pour des groupes qui ne sont pas donc sur place à Créteil, et qu'il peut y avoir des formules un petit peu sur mesure justement aussi pour ces groupes qui font les formations en ligne.
C'est ça, donc à Créteil nous avons à peu près une centaine d'élèves et online, en fait, l'école online, à peu près une trentaine de personnes qui suivent de façon assidue la formation. Et alors, lors des invitations que je reçois ou simplement, effectivement, des églises qui savent rassembler les membres qui sont vraiment intéressés, là, on peut organiser des sessions particulières et des sessions intensives en répondant soit à certaines problématiques ou en commençant vraiment à apporter un certain tronçon des enseignements qui sont apportés.
Donc, on peut retrouver toutes les informations, excuse-moi, sur le site destinedanceschool.com. On va retrouver toutes les informations sur la formation, sur la vision, les inscriptions, l'adresse exacte. Et puis aussi, les gens peuvent contacter, vous pouvez contacter l'école directement à travers le site pour avoir toutes les informations.
Est-ce qu'Annabelle, je peux rajouter une petite chose?
Vas-y.
Voilà, une toute petite chose. Voilà. Simplement vous dire que la vocation de Destiny Dance School, c'est pas simplement l'église et de rester qu'entre nous. Depuis un an, Destiny Dance School est aussi membre du Conseil international de la danse, qui est une branche de l'UNESCO, ce qui nous permet d'être la présence chrétienne de la danse parmi les Nations Unies de la danse. Et étant membre actif, cela me permet vraiment de pouvoir aussi être vraiment cette empreinte artistique, chrétienne, et de pouvoir dire que oui, dans tous les rassemblements de danse qu'il y a à travers le monde, il y a aussi des chrétiens qui font quelque chose, qui ont une culture particulière, une danse particulière. Donc, Destiny Dance School, en fait, va pouvoir donner à la fin de certains cursus à certains danseurs qui ont vraiment été assidus, méritants, un diplôme qui est reconnu maintenant internationalement, sur le support, en fait, justement, de l'UNESCO. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, on n'est pas en train de faire quelque chose de sectaire entre nous, mais vraiment, il y a cette portée d'être planté dans le monde tout en étant ambassadeur de Christ.
Wow. Excellent, excellent.
Et reconnu comme tel.
Oui.
Voilà.
Merveilleux. Et si vous vous dites, mais qui est cette femme, Virginie Enfa? D'où vient-elle? Comment en est-elle arrivée là? Elle va raconter son histoire, son témoignage dans la rubrique C'est mon histoire la semaine prochaine, vendredi prochain. Donc vraiment, faudra pas manquer ça parce que moi-même, j'ai découvert des mystères. Elle a une vie palpitante. Elle a eu une vie et elle a encore une vie palpitante. Donc vous en saurez plus sur cette histoire et comment cet appel est venu sur ta vie, qui est quand même un appel particulier. est peu connu finalement. Donc merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous toute cette semaine, nous faire découvrir ce ministère qui t'anime et puis nous permettre aussi de pouvoir le faire connaître à la francophonie finalement. Donc c'est merci beaucoup Virginie pour ta présence. Merci à vous tous pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle donc notre thème principal qui était l'importance de dominer sur le péché. Donc au début de cette émission, nous vous avons donné plusieurs conseils importants. On arrive vraiment à la fin de l'année. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes restés dans un péché depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision que vous n'entrerez pas en 2019 esclave de ce péché. Peu importe, comme l'a dit Virginie, dans certains cas, vous aurez besoin de l'aide de votre pasteur pour briser certains liens dans votre vie. D'autres fois, vous allez simplement devoir apprendre à dominer et à résister sur le péché. Mais prenez la bonne décision pour rentrer en 2019, complètement libéré de toute condamnation. On se retrouve demain. Notre thème sera comment mener le combat de la foi lorsqu'on est malade. Et oui, certains vivent un temps des fêtes dans la maladie. Demain, nous prierons pour vous et vous allez certainement recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, ne manquez pas cette émission. Faites-la connaître autour de vous aussi. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.